Interview.
'Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Laure Lalubie. Bonjour.
Bonjour.
Laure, vous êtes architecte spécialisée dans le patrimoine et pour cela, vous allez proposer des ateliers de maquettes à l'adresse des enfants à partir de 7 ans, mais au-delà, hein, pour les adultes également. Et face à vous, nous avons Marie Pouillaude. Bonjour.
Oui, bonjour.
Marie Pouillaude, plasticienne. On vous connaît beaucoup sur vos travaux de collage et puis vos ateliers justement autour de cette technique. Et... on vous avait déjà reçu aussi pour cette édition de Béatrice Dedi,
ah oui,
qui avait été une coproduction de plusieurs artistes,
absolument,
dont vous
oui,
aviez
oui,
l'illustration. Alors, vous êtes toutes les deux ici pour nous parler d'un atelier intitulé « Créons notre ville imaginaire ». Alors, ça sera avec des propositions de construction aux personnes qui viendront, de maquettes architecturales et de papier découpé. Alors, pour vous, quelle est cette envie de vouloir créer cet imaginaire, cette ville imaginaire ?
L'envie, c'est de se poser des questions sur la forme que pourrait prendre une ville, que peut prendre une ville. Et pour ça, on va d'abord travailler un petit peu la première séance sur l'histoire des villes, comment elles se sont créées, souvent en partant de quelques huttes dans un espace géographique donné, qui était intéressant pour y vivre, et puis comment elles se sont transformées petit à petit, agrandies, strate par strate, démolies, reconstruites, etc. Et puis aussi, on va peut-être regarder aussi des exemples de villes imaginées par des personnes depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu des gens qui ont imaginé des villes nex nihilo, comme ça, qui sortent de terre avec une idée, soit de ville pour se défendre, soit de ville pour vivre ensemble à côté de son usine, par exemple, soit aujourd'hui il y a des villes prévues pour être extrêmement donc écologique, on va dire, parce que zéro carbone une fois qu'elle est construite. Maintenant, effectivement, elle demande beaucoup de carbone à construire. Et tout ça, voilà, on va pouvoir en parler et puis avoir peut-être un petit débat dessus pour savoir ce qu'on a en nous envie, donc dans l'atelier, de construire ensuite en deux séances avec nos mains. Quelle sorte de ville est-ce que ça va être un truc pratiquement, ça pourrait être un truc impossible à faire en vrai, et pourquoi pas, ou au contraire tout à fait réaliste, mais quelle forme elle va prendre et quel objectif elle va avoir.
Est-ce qu'il y a au niveau des notions d'architecture, des limites qui seront peut-être dictées au départ, ou alors c'est libre cours à l'imaginaire ?
L'architecture, c'est libre cours à l'imaginaire. Après, effectivement, faut que ça tienne. Mais aujourd'hui, on a pas mal de techniques pour que ça tienne. Est-ce qu'on a envie de faire une ville où il faut énormément de techniques pour que ça tienne ? Peut-être pas, on verra. Mais pourquoi pas ? On peut s'amuser à faire ça, à imaginer. On regardera 2-3 exemples aussi de bandes dessinées avec des villes qui sont très belles, très joliment dessinées, mais je crois qu'elles seraient vraiment compliquées à construire. Hein, des tours de 4 km de haut, avec des passerelles entre, c'est très joli, mais ça ne peut pas marcher, en vrai.
Marie Pouillaude, vous-même donc amenez votre savoir-faire de plasticienne dans ces ateliers. En quoi consistera avant tout votre activité ?
Voilà, moi je voulais dire avant tout que je m'intéresse au patrimoine depuis un moment et que du coup je suis ravie de collaborer avec Laure. J'avais fait il y a quelques années une collection de livres audio à partir du patrimoine de Die. donc en collaboration toujours avec Trajet Spectacle, on avait observé ce qui était dans le musée, mais aussi les rues de Die. Et j'aime bien ce côté de glaner pour regarder autour de nous. Donc c'est quelque chose, une thématique qui m'intéresse. Donc Laure, elle va expliquer des notions que tout le monde n'a pas forcément hein, sur ce que c'est qu'une construction, comment vit une ville. Et moi, j'avais vu l'année passée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, une maquette réalisée par Laure avec un groupe d'enfants. Et j'avais été intéressée par le sujet, mais j'avais trouvé que ça manquait de couleur. Et moi, mon cœur de vie, c'est la couleur. Donc je vais arriver avec plein de papiers de couleur. Et l'idée, c'est, et puis des cartons aussi, parce que je trouve qu'on, enfin moi c'est comme ça que je travaille en fait. Je pars de la matière et c'est comme ça que je construis mes images ou mes histoires. Donc je vais apporter toutes sortes de chutes de cartons plumes qui ont des formes rigolotes, qui sont voilà des restes en fait, hein, mais qui ont des formes marrantes avec des ronds dans des triangles. Enfin bon, des choses qui j'espère vont les inciter à rêver en fait, hein, notre petit groupe là. Et après ça, on va mettre de la couleur. Et effectivement, tout ça, il faut que ça tienne. Et donc, et puis que ça tienne ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire une maison rigolote, mais il faut voir comment ça s'articule. Et ça, Laure, elle a des notions d'urbanisme que je trouve intéressantes à expliquer. Parce que c'est une ville qu'on va construire. Ce n'est pas que des maisons isolées.
Et il y a aussi, utilisez notamment des documents imprimés, hein, à découper aussi pour les assembler avec d'autres. Ça sera mis de côté. Vous êtes plus dans l'optique de papier coloré, hein, uniquement.
Oui, mais si tu veux, je vais apporter aussi du carton ondulé, peut-être des papiers, effectivement, des papiers de magazine ou des papiers de journaux. Parce qu'une maison, elle peut parler aussi, tu vois. Donc l'idée, c'est de s'amuser, en fait, et de rêver. Et plus on aura des matières variées et intéressantes, plus on sera dans l'imaginaire.
Alors, il y a une notion principale pour construire ou bâtir peut-être une cité, c'est l'accès à l'eau. Souvent, les villages ou les villes se sont construits autour d'une rivière ou d'un plan d'eau, en tout cas. Est-ce que vous envisageriez peut-être d'adapter cette maquette à ce qui existe dans le Diois ? Est-ce qu'il y aurait un secteur du Diois sur lequel vous espériez peut-être produire une création, voire utopique même, de cette cité ?
Ben, ça pourrait être un des objectifs. Je pense qu'on va en parler avec notre petit groupe, justement. Qu'est-ce qu'on a envie de produire et pourquoi. Mais ça pourrait tout à fait prendre la forme de quelque chose sur un terrain connu. Dans tous les cas, oui, les villages se sont toujours mis à côté d'un endroit où il y avait assez de soleil, de l'eau, des parcelles cultivables. Donc on peut tout à fait... Enfin, aujourd'hui, il y a des villes imaginaires, enfin, même plus imaginaires, qui sont en train de se construire en plein milieu des déserts et donc on peut faire n'importe quoi, mais justement c'est avec ce groupe qu'on va réfléchir à ce qu'on a le plus envie de faire. Donc si ça prend la forme d'un endroit qu'on connaît, pourquoi pas ? Et donc on va créer un socle commun sur lequel on pourra poser ces architectures imaginaires sur un socle qui représentera une rivière, un morceau de montagne... Voilà, voir ensemble.
Ouais, je crois que vous parlez de la cité Néome.
Avec une cité qui s'appelle Velein, qui est 170 km d'un trou de... Enfin, d'un trou, non, d'un barrage, on va dire, de miroirs très étroits, où les maisons, enfin, les immeubles se regardent. Au milieu, il y a c'est pas une route, c'est un train qui passe. Enfin, qui devrait passer. Pour l'instant, ils en sont à construire 30 km, mais truc monstrueux.
J'ai lu récemment que c'était revu fortement à la baisse. Hein, 270, ils sont passés à 2,5
km. Oui, ben pour l'instant,
l'horizon 2040.
Voilà. Hein, ils essayent de... Ouais. Mais je sais pas, ils espèrent, je sais plus, 5 millions de personnes. Mais qui va aller habiter là-bas ? Enfin, c'est... Oh.
Et donc,
en tout cas, pas les travailleurs qui œuvrent en fait au projet. Hein.
Cette envie de partager aussi vos connaissances en architecture, ça permet aussi parce que il y a les enfants certes, mais les adultes également peuvent être présents. En quoi vous allez les amener sur ces conceptions ?
Alors, comme je suis architecte du patrimoine, je pars beaucoup de l'histoire. Et parce que rien ne naît tout seul, tout est né de quelque chose qui s'est passé avant. Et qui, donc, on crée le futur avec le passé. On a toujours un pied dans ses racines. Et donc, effectivement, j'ai déjà fait des ateliers dans les écoles à Die, en emmenant les enfants qui étaient accompagnés par les parents. Et on a beaucoup parlé de, on a beaucoup observé le patrimoine et comment tout ça s'est construit. Et les parents étaient aussi intéressés que les enfants. Et parce que ce sont des notions que on connaît pas forcément. On traverse la ville sans jamais beaucoup la regarder. Et on s'adapte. Et parfois même, on se dit, tiens, c'est dommage, ici ça a été cassé, ou tiens, il y a un nouvel immeuble, mais on sait pas forcément pourquoi, on se pose pas forcément les questions. Et finalement, quand j'ai fait ces ateliers avec les enfants, ils se sont posés plein de questions, et les parents aussi, et il y a eu des réponses, et c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé que tout le monde était super passionné, et donc j'ai eu envie de continuer.
Comment est le patrimoine, comment il est et comment il est arrivé comme ça? Est-ce qu'il est dégradé? Est-ce qu'on peut imaginer de l'améliorer? Est-ce qu'on pourrait rajouter, ouvrir? C'est des questions vraiment intéressantes à l'échelle d'une ville, en fait.
Mm-hmm. On peut parler de Die également, oui. Reconstruite sur des ruines, avec des récupérations de matériaux. On peut le voir sur certaines façades. Oui. Ça rejoint un peu votre démarche, Marie, pour ces collages, justement, d'assemblage de choses plutôt très différentes.
Bah, le collage, c'est ça, le bonheur du collage. C'est que on peut refaire à l'infini, en fait. On peut récupérer un bout de papier pour mettre sur un autre. Et puis, on construit, on récupère, en fait. Et c'est du réemploi constamment, en fait. Hein. C'est comme à la ville de Die. On est dans le réemploi tout le temps. C'est-à-dire, et puis, il peut y avoir des superpositions aussi, des traces qui sont enfouies et qui ressortent. Il peut y avoir des inscriptions romaines qui, tout d'un coup, émergent d'un bout de crépi, ou c'est ça qui est amusant. Et dans le collage, ça permet tout à fait ça, de fouiller, de voir comment c'est construit, comment c'est superposé, ce qui se cache dessous, et est-ce qu'on pourrait rajouter tout d'un coup, tchaf, tiens, quelque chose qui dépasse, quelque chose qui... une perspective à laquelle on n'avait pas pensé. Ça donne envie, effectivement, de réfléchir à la ville de Die, comment on pourrait l'améliorer et la faire vivre différemment.
Alors, vous proposez à partir du 18 janvier, 1er février et 8 février, donc trois ateliers qui vont durer à peu près 2h30. Et donc, c'est à lieu les samedis, hein, principalement.
Oui. Alors, nous, dans les gens qui sont inscrits, c'est plutôt des adultes qui vont rester avec l'enfant. Voilà, parce qu'eux-mêmes sont intéressés par l'architecture, en fait. Et eux-mêmes ont envie de participer.
Vous avez déjà des inscriptions oui. établies.
Oui.
Vous êtes en recherche encore de personnes?
Ah oui, toutes les personnes qui souhaitent venir nous rejoindre seront les bienvenues. Hein.
Alors, la première séance, comme vous le disiez, Laure, consistera peut-être à rappeler les notions de l'architecture avec des illustrations issues de l'histoire, de l'utopie même architecturale. Est-ce qu'il y a certaines envies de votre part à travailler en particulier dans toute cette histoire de l'architecture ?
Mais il y a une envie de travailler sur le passé, donc comprendre comment une ville comme Die se construit. Donc je montrerai aussi des plans de Die, comment on a pu évoluer. Et puis chacun pourra se souvenir, parce qu'on, bon, il n'est pas prévu cette fois-ci d'aller se promener dans Die, mais chacun pourra se souvenir d'endroits qu'il a vus, puis, ou poser des questions. Voilà, ça sera un échange. Et puis effectivement, je suis intéressée pour montrer les utopies qu'il y a eu, parce qu'on ne les connaît pas forcément. Et elles font partie de la vie quand même aussi de l'architecture du XXe siècle a découlé de l'architecture du XIXe. Et dans l'architecture du XIXe, il y a plein d'utopies qui ont été faites. Et qui sont intéressantes parce que ça découle aussi, ça nous amène aussi aujourd'hui, quand on réfléchit à vivre comme, comme on peut, il y a pas mal d'associations qui essayent de le faire à 10, donc ensemble, à faire des choses communes. Et ben, au 19e siècle, il y avait des villes construites pour être mises en commun, pour que les... Alors, c'était plutôt par des entreprises, mais les ouvriers habitaient dans des maisons et tout le reste était en commun, payé chacun, soit par le patron, soit par une petite participation de chacun. Mais donc, il y avait un théâtre en commun, une école en commun, une laverie en commun. Et tout ça, c'est intéressant de voir, et de voir les formes aussi, parce qu'il y avait des formes en rond, des formes en carré, des formes... Tout ça prend des formes. Et donc, oui, c'est tout ça qui m'intéresse de faire partager aux personnes qui viendront.
Alors, ces utopies-là, tu vas les montrer, mais tu vas en parler, mais tu vas aussi les montrer sous forme de photos et d'images, et de livres et de projections.
Oui.
Et ça, c'est important parce que c'est des images qui vont nourrir, en fait, la réflexion et l'envie de faire.
Il y a aussi cet aspect... étant jeune, nous avions beaucoup de jouets de construction, hein, que ce soit en bois ou en plastique, tels les Lego. Ce sont des activités qui existent toujours de nos jours pour les enfants, ces propositions de jouets.
Alors, je pense que des jouets, des Lego, il y en a toujours. Je pense que les enfants aiment toujours ça. Après, pour les ados qui aiment les jeux, il y a Minecraft, qui est un jeu de construction. Où ils construisent des villes, des architectures assez folles aussi, et qui est pas inintéressant pour ça. Après, on peut jouer dedans à se faire la guerre, mais c'est virtuel.
Ouais.
Mais c'est un peu comme des Lego parce que c'est des carrés, des blocs qui se mettent les uns sur les autres, et on peut faire des tunnels, on peut faire des tours, on peut faire des villes. Et effectivement, après, le but, c'est, quand les villes sont construites, c'est de jouer peut-être avec des personnages à la guerre dedans. C'est, bon, je trouve ça moins intéressant.
Ouais,
mais
chose,
la construction prend une part énorme dans ce jeu-là, quand même. Je dirais que c'est un jeu de Lego virtuel.
Il y a aussi la constitution d'une cité qui s'établit avec des populations qui se rassemblent autour de ce projet et avec leurs compétences propres à chacun ou chacune. Donc ça, vous amenez aussi l'aspect social d'une cité au-delà de cette architecture ou de cette urbanisation.
Ben, on va en parler. Dans les villes utopiques, il y a vraiment un aspect social. Dans les villes du XXe siècle qui sont sorties de terre après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un aspect social. C'était vraiment mettre le plus de personnes possible dans des appartements lumineux où il y avait une salle de bain. Ça a fait les cités qu'on connaît, qu'on n'aime plus, mais qui, à l'époque, étaient fabuleuses par rapport aux... D'abord, après la guerre, beaucoup de gens vivaient dans des bidonvilles. Et même avant la guerre, ils vivaient dans des logements insalubres, dans des centres-villes qui n'avaient pas du tout été restaurés, où il n'y avait pas toujours l'eau et l'électricité. Donc tout ça était vu comme un progrès. Maintenant, on n'aime plus ça. Donc il y a des tas de réflexions sur l'urbanisme et l'architecture de ces cités pour les rendre plus vivables. Mais rien ne va sans les personnes qui vivent dedans.
Pour les adultes, il y aura peut-être des activités différentes de celles des enfants, ou alors c'est parents et enfants qui travailleront ensemble sur le même projet, par exemple.
Le but, c'est que les parents et les enfants travaillent sur le même projet.
Oui.
Après, dans l'exposé qu'on va faire sur l'architecture, l'urbanisme, on s'adaptera à chacun. Et le but, c'est d'avoir des échanges. Je ne vais pas faire un cours, je vais montrer des images, je vais expliquer ce qui s'est passé. Mais le but, c'est d'avoir des échanges, autant avec les enfants qu'avec les parents. Et puis, j'ai trouvé 2-3 livres à la médiathèque de Die, plutôt pour les enfants, qui montre en images comment une ville se crée, et qui y a aussi un livre sur les villes du futur, donc ça pourrait être aussi intéressant à feuilleter si jamais les enfants décrochent un peu à un moment parce que les adultes parlent trop.
Mais les adultes ont très très envie de s'y mettre quand ils voient les enfants faire. Moi, je le sais parce que j'anime plein d'ateliers pour les tout-petits. Mais les parents, souvent, je leur dis, faites-le aussi, vous. Parce que je vois bien qu'ils ont... Ça les démange, quoi, d'attraper les pinceaux, peut-être pas les ciseaux, mais d'attraper les papiers. Je vois bien qu'ils ont envie de le faire. Et les adultes, ils ont très, très envie de mettre la main à la pâte. Ils n'ont pas tellement l'occasion dans leur vie, en fait, hein, de toucher, de construire, de jouer avec la couleur. Et ils sont aussi contents que les enfants de le faire. Hein.
Alors, les constructions seront faites de papier, voire de carton, peut-être, également, pour la solidité. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux sur lesquels vous travailleriez aussi ?
On va en parler à la fin de la première séance, parce qu'effectivement, si on a envie, si les gens qui sont là ont envie de travailler sur des choses assez... des brindilles, des bouts de bois... des pierres... pourquoi pas ? Et dans ces cas-là, on va de toute façon parler à la fin de la première séance de ce qu'on va construire après pour préparer tout ça et pour ramener en deuxième séance les matériaux nécessaires. Donc il faudra qu'on ait quand même l'objectif un petit peu de à quoi va ressembler cette ville et puis qu'est-ce qu'on en fait à la fin aussi. Est-ce qu'on va la montrer ? Est-ce qu'on va la conserver ? Est-ce qu'au contraire, ça sera quelque chose de très éphémère qui sera fait ? Qui sera redonné à la nature le troisième samedi.
On fera au moins des photos. Hein.
Au moins des photos.
Ouais.
Ces ateliers sont aussi du fait de l'association La Graine Enchantée, qui s'occupe de cette association. C'est vous,
Marie ? C'est mon association que j'ai créée il y a fort longtemps, quand j'étais à Paris, et qui me suit, en fait, et qui soutient tous mes projets. Donc, l'atelier va se passer à Trajet Spectacle, dans les locaux de Trajet Spectacle, mais c'est porté financièrement par mon association, La Graine Enchantée.
Alors, quelle est cette motivation de cette association, au départ ?
C'est une association qui soutient tous les projets culturels, quels qu'ils soient, création de livres, animation d'ateliers, spectacle aussi, parce que je fais beaucoup de spectacles pour les tout-petits. Donc l'association, elle prend tout ça sous son chapeau.
Laure Lalubi, vous-même, donc, êtes architecte du patrimoine. C'est une activité à laquelle vous vous êtes consacrée très vite dans votre existence.
Oui, j'ai eu le diplôme d'architecture vers 21 ans. Et en fait, quand on faisait dessiner des HLM ou dans les années 80, c'était pas super l'architecture, c'était pas très joli. Et on me faisait dessiner des choses dans des logements dans lesquels j'avais pas du tout envie, moi, de vivre. Et du coup, ça m'a posé un vrai problème éthique. Et donc, je me suis tournée vers le patrimoine, enfin, tout ce qui était ancien. Finalement, je me suis aperçue que si j'aimais l'architecture, c'est parce que j'avais traîné mes baskets dans des châteaux et des églises quand j'étais jeune, avec mon père qui m'emmenait voir ça. Et que finalement, c'était ça pour moi, l'architecture. Donc, j'ai bifurqué vers ça. J'ai fait une école spécialisée pour restaurer les monuments historiques. Et finalement, oui, ça fait 30 ans que je restaure des monuments historiques. Et depuis que je suis dans le Diwa, je travaille plus je travaille plus localement. Donc, c'est du plus petit patrimoine. Hein. Effectivement, la cathédrale de Die n'est pas en restauration. Et donc, il n'y a plus vraiment... J'ai plus des grands chantiers de restauration. Mais je préfère maintenant... essayer d'expliquer le patrimoine aux gens, donc que ce soit par les écoles. Je suis architecte conseil aussi, ce qui me permet d'expliquer le patrimoine aux propriétaires privés de maisons à des personnes qui... des apprentis maçons, des apprentis charpentiers à qui j'essaye aussi d'expliquer le patrimoine. Voilà, plusieurs cordes à mon arc, je donne des cours. Ce patrimoine, cette idée du patrimoine, de comment on pourrait le préserver tout en vivant dedans. Ça m'importe de transmettre ça maintenant.
Ce savoir-faire architectural qui ont bâti tous ces édifices sur lesquels vous consacrez votre activité au niveau du patrimoine, est-ce qu'il y a un savoir-faire qui réussit à perdurer ou alors la notion de ces constructions en béton armé a passé un grand coup de gomme sur cette notion d'architecture ?
Alors, il y a eu une mauvaise période pour les monuments historiques. Oui, effectivement, pour l'architecture, en les années 70-80, 90, il y a eu beaucoup de béton, même dans les monuments historiques, pour s'apercevoir que le béton est beaucoup trop dur par rapport à la maçonnerie qui a été faite avec de la chaux et qui bouge, en fait. Et si les grandes cathédrales dans certaines villes qui ont été bombardées sont toujours debout, c'est parce que, justement, la chaux qui existe entre les pierres n'est pas complètement dure et que tout peut bouger et se remettre d'aplomb. Alors que quelque chose en béton, s'il est mal armé, s'il est mal fait, en fait, c'est tellement dur que ça casse. Et donc voilà. Mais c'est une période, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a bien compris ça. Tous les produits chimiques qu'on a pu mettre aussi sur les façades, on a bien vu que ce n'était pas pérenne. Et depuis l'an 2000, quand même, il y a eu énormément de choses de fait sur les monuments. Il y a de la recherche, il y a des tas de gens qui s'occupent de ça. Bon, l'incendie de Notre-Dame était très dommage, mais ce que j'ai apprécié, c'est que finalement, depuis, il y a eu des tas de reportages, des tas de choses qui ont été montrées sur la restauration de Notre-Dame et qui ont ouvert le public, le grand public qui ne connaît pas ces restaurations, qui ont ouvert les yeux et qui ont vu, qui ont appris beaucoup avec cette restauration. Donc, la restauration de Notre-Dame, moi, c'est ce que je fais depuis 30 ans sur Notre-Dame ou d'autres églises, mais c'est... Et je suis contente qu'on s'y intéresse. Et voilà, je pense que non, le tout béton n'existe plus. Et puis maintenant, même dans la construction neuve, on met de moins en moins de béton puisque c'est pas écolo. Et il y a des tas d'autres solutions. Et donc... c'est bien, ça avance et la restauration, effectivement, il faut continuer à faire de la pédagogie pour que les propriétaires privés ne mettent pas du ciment sur leur façade parce que ça va faire du mal à la maison. À eux aussi, ils devront tout recommencer dans 10 ans. Ça va leur coûter très cher. Mais voilà, pour ça, il faut qu'ils le sachent. Et donc, c'est aussi le rôle des architectes conseils. Je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça très très bien. Moi, je le fais à la ville de Cray. Il y en a dans beaucoup de ville. Et tout ça, c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut encourager.
Il y a aussi cette notion de badigeons d'intérieur d'édifices tels les églises qui ont effacé énormément de traces de décorations très colorées. Moi, j'ai assisté en ayant travaillé dans des restaurations d'églises sur des enduits, des choses comme ça. On a pu découvrir sous ces badigeons décrétés par la hiérarchie épiscopale ou je ne sais quoi, la disparition de motifs, de représentations aussi, avec beaucoup de couleurs, de personnages. Est-ce que ça rejoint un peu votre travail aussi d'amener cette notion de décoration, Marie Pouillaude, sur ces maquettes ?
Alors, c'est une question intéressante, parce qu'on peut faire, d'une part, ressurgir des choses qui sont des traces du passé, c'est-à-dire faire apparaître des morceaux de fresques. Ça, c'est des choses que je peux imaginer d'apporter, des peintures, des représentations de peintures, des photos de peintures qu'on peut faire apparaître comme ça sur une façade. Ça peut être rigolo. Et puis, on peut aussi... Donc ça, c'est faire apparaître des traces. Mais on peut aussi imaginer des décors sur des maisons. Parce que je trouve que ça fait partie vraiment de la joie qu'on a à voir... une maison, moi, quand je me promène à Die et que je vois qu'il y a ne serait-ce que des, ce que j'appelle des ribambelles, c'est peut-être pas le mot exact, mais des ribambelles avec des figues comme ça qui courent sur la façade. Moi, je trouve ça très, très ludique et très joli. Donc, on peut faire aussi des choses comme ça pour décorer, pour se faire plaisir aux yeux, en fait.
Je reviens un peu là-dessus. Laure, vous-même, est-ce que, en tant que spécialiste du patrimoine, ça vous est arrivé peut-être de découvrir des décorations qui étaient cachées ?
Oui, alors ça nous arrive tout le temps. Et le chantier le plus emblématique de ça, c'est le dernier que j'ai fait, qui est à Paris, qui est l'hôtel de la Marine, ou qui était devenu un ministère de la Marine, alors qu'au départ, c'était le garde-meuble du roi Louis XV. Et Donc quand on arrivait, il y avait de la peinture grise qui avait été mise, c'était des anciens bureaux. On savait que c'était un appartement du 18e siècle, extrêmement décoré avant. Et en fait, on a gratté sur les murs et c'est assez rare qu'il reste tout ça. On a trouvé parfois 10 couches qu'on a enlevées patiemment jusqu'à la dernière couche. Alors parfois, on garde, enfin, faut se décider sur une époque qu'on garde. Parce que si on veut garder la dernière couche, la plus ancienne, mais qu'il n'y a presque rien, on aura perdu quand même toutes les couches d'après. Donc bon, là, il y avait tellement de choses à la fin, enfin, dans la dernière couche, qu'on a passé 2-3 ans à gratouiller tout et on a retrouvé tout le décor d'avant qui est aujourd'hui, qui se visite. On peut voir l'appartement comme il était. Mais souvent, effectivement, les décors ont été parfois dans les églises. Quand vous disiez ils ont été badigeonnés, ben ça c'est tant mieux parce que le badigeon ça s'enlève, on retrouve tout. Mais souvent ils ont été piochés. Et ça c'est dommage. Il y a eu une mode aussi de montrer les pierres. Mmh. Alors, c'est très joli, hein, mais quand c'est des petites pierres, les grandes pierres de taille, souvent elles étaient faites pour être montrées, effectivement. Mais les petits moellons, qu'on appelle les petites pierres, comme il y en a sur la cathédrale de Die, elles sont faites pour être enduites, parce que d'abord c'est très fragile, l'eau s'infiltre dans les mortiers et gèle, et donc ça casse et il faut refaire régulièrement, alors qu'un enduit va protéger la façade pendant plusieurs années. On refait les enduits tous les 10 ans. Mais voilà, une fois que l'enduit est pioché, ben, quand le décor était sur l'enduit, ben, il n'y a plus de décor. Ça, c'est vraiment dommage, on ne retrouve pas. Alors, on retrouve parfois dans des petits coins, derrière une gouttière. Voilà, il faut avoir l'œil.
Ces maquettes vont être constituées sur un support qui sera peut-être démontré ou exposé au public. Est-ce que vous envisagez une taille à peu près de cette maquette ?
Ça va dépendre quand même de combien de personnes viendront. Oui. Parce qu'on ne fera pas la même maquette si on est 20 que si on est 10. Et donc, venez nombreux, comme ça on fera une plus belle maquette.
Alors, les parents et enfants viendront sans matériaux. Vous les proposez à la disposition, hein, je pense.
On apporte tout, en fait. Les gens arrivent... avec les doigts dans le nez.
Voilà. Sauf s'ils ont très envie d'un certain matériau qu'il y a chez eux, s'ils ont des idées, etc. On est très ouverts. Mais on apporte ce qu'il faut au départ.
Il y a cette inscription, donc, comme je disais, avec l'association La Graine Enchantée, oui. Avec un numéro de téléphone. Voilà. On peut peut-être l'indiquer.
Je peux le redire. Hein. Donc, c'est La Graine Enchantée. C'est 06 48 79 53 49.
Et pour en connaître un peu plus sur vous-même, Laure et Marie, il y a cette page sur Trajet Spectacle où sont présentés tous les intervenants de l'association. Hein.
Oui, oui.
Je vous remercie en tout cas, Laure Lalubi et Marie Pouillaud, d'être venues sur Air du Bois pour nous parler donc de Créons notre ville imaginaire, qui s'agira de maquettes architecturales et papier découpé pour tous les publics à partir de 7 ans.
Voilà.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.